Hussard.
Bon allez Caro, c'est la dernière ligne droite, t'endors pas, on arrive à la victoire finale.
Non, non mais je m'endors pas du tout, ouais. je réfléchis. Je réfléchis, tu sais, au vote disruptif.
Le quoi? Tu parles du concept de disruption, toi?
Bah oui.
Mais t'as pêché ça où?
Dans le livre de Sciences Po écrit sous la direction de Pascal Perrineau, tu sais. Ça tente d'expliquer le champ de ruines qui est devenu le paysage politique français en 2017.
Arrête, je suis inquiet, t'as fait Sciences Po depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tu veux me piquer ma place?
Eh ben je sais pas, figure-toi, parce que je commence à y prendre goût, moi, à la politique.
Alors... Ouais, bah méfie-toi.
Allez.
Pour comprendre cet objet bizarre et tout neuf qu'est le macronisme au moment où il prend le pouvoir, nous sommes avec notre invitée aujourd'hui, Catherine Barbaroux. Bonjour Catherine Barbaroux.
Bonjour.
Alors, qui êtes-vous? Eh bien, tout simplement, vous avez succédé à la tête de La République En Marche à Emmanuel Macron juste après son élection et vous avez assuré l'intérim jusqu'à l'élection de Christophe Castaner à cette fonction. Vous avez tous les atours du macronisme originel, sauf l'âge peut-être. En 1975, vous êtes secrétaire adjointe du groupe PSMRG à l'Assemblée nationale. Entre 80 et 90, vous êtes directrice des ressources humaines de Prise Unique et du groupe Pinault Printemps La Redoute. En même temps, entre 1981 et 1986, vous travaillez pour le cabinet du ministère de gauche de l'Environnement, puis du Commerce. Entre 1997 et 2005, vous êtes délégué général à l'emploi, à la formation professionnelle, au ministère du Travail de Martine Aubry, puis d'Elisabeth Guigou, et puis de François Fillon et de Jean-Louis Borloo. Privé, public, gauche, droite et associatif, avec l'Association pour le droit à l'initiative économique, dont vous avez été la présidente. Vous êtes une grande connaisseuse aussi du microcrédit et vous rencontrez Emmanuel Macron en 2015 quand vous lui remettez, il est ministre à l'époque, il faut le rappeler, vous lui remettez un rapport sur les freins à l'entrepreneuriat. Racontez-nous d'abord cette rencontre.
Bah, au moins avec ce CV, on sait qui est Catherine Barbaroux.
2016, Amiens, le point de départ de la conquête, un voyage dans l'histoire et la géographie, Macron lance En Marche.
Blocage et mouvement.
Alors là, on a entendu deux mots, Catherine Barbaroux, intéressant, deux mots clés, blocage et mouvement.
Ah ok, ça y est, je comprends. T'as déjà tout écouté, puis tu veux me tester pour savoir si j'ai compris quelque chose à tout ça?
Mais non, c'est juste que je suis fan. Allez, on continue.
Il y a une énergie dans le pays. Elle est là. Il y a une ambition dans le pays. Il y a une lucidité chez les Françaises et les Français dont je suis profondément convaincu. Je pense que la société d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ou 30 ans. Elle a profondément changé et nos concitoyens sont prêts à la fois à beaucoup plus d'efforts, mais à condition qu'on lui donne du sens et une perspective.
Alors là, non, tais-toi, laisse-moi deviner. On va à l'archive 2, c'est ça? Toujours à Amiens?
Oui, et alors pourquoi?
Je sais pas, je donne ma langue au chat.
On va refonder sur des valeurs, on va projeter le pays en avant, inventer nos libertés et les règles d'un progrès. Bon, c'est peut-être dans le désordre, mais on écoute.
Je sais pas.
La vraie question, c'est est-ce qu'on veut refonder, non pas sur une carte qui ne correspond plus aux défis du moment, mais sur des valeurs, des concepts, une réflexion profonde et sincère qui est de savoir comment on veut penser le monde, mais comment on veut projeter le pays. Donc moi, je crois à la liberté économique, sociale, politique, et à notre capacité collective à l'articuler avec la justice et la sécurité. Je pense qu'opposer ces notions ou dire que l'une doit être toujours au-dessus de l'autre est une erreur. Mais la liberté, nos libertés, c'est un primat essentiel. Je crois à notre capacité à inventer les nouvelles règles d'un progrès, ce qu'on a rapidement évoqué, ce que j'ai essayé un peu d'esquisser. C'est-à-dire une société où on prend plus de risques, où on offre plus d'opportunités, où on redonne l'égalité des opportunités au moment important de la vie, mais où il y a des perspectives de progrès pour les individus, où on remet de la mobilité sociale. Ça passe par le progrès technologique, ça passe aussi par l'innovation sociale et l'esprit de responsabilité.
Alors nous sommes toujours avec Catherine Barbaroux, compagnon de route d'Emmanuel Macron. Dans cet extrait, celui qui sera président un peu plus d'un an plus tard dit deux choses. Il invoque le primat de la liberté et il parle de l'innovation sociale. Ce pourrait être une définition d'un terme qu'il n'utilise pourtant pas, le social-libéralisme.
Oui, c'est vrai que ce terme qui après fait florès n'est pas présent dans nos têtes à ce moment-là. Enfin, sont présents dans nos têtes, je pense, vraiment l'idée que ça ne marche plus. C'est pas, presque un paradoxe, c'est pour ça qu'on s'est mis en marche. Mais ça ne marche plus. Les programmes ne marchent pas, les promesses ne sont pas tenues. Moi, il y a des mots-clés dans le discours de Macron qui m'ont fait vibrer d'une certaine manière aussi, parce que je voudrais faire partager l'idée qu'il y avait une vraie vibration, qu'il y avait une vraie sincérité, d'autant plus que vous ne pouvez pas me mettre en cause d'une certaine manière, parce qu'à l'époque, l'espoir de gagner les élections n'était pas présent dans nos têtes. Donc,
un an avant, vous n'y croyez pas.
En tout cas, pas moi, peut-être d'autres. Mais moi, j'avais le sentiment, en tout cas, qu'il fallait tenter quelque chose. Ça, c'est sûr, qu'on était arrivé au bout, que le modèle était épuisé, que cette espèce de scansion, 5 ans l'un, 5 ans l'autre, les programmes, les projets, les promesses, enfin, que tout ça ne marchait plus, et que pour autant, il y avait une réalité là, des tas d'initiatives. C'est vrai que moi, mon passage dans l'associatif m'a probablement encore plus apporté que toutes mes expériences dans le public et dans le privé, et on était nombreux. C'est pas un hasard si Emmanuel Macron est allé chercher des gens comme moi, peu connu, mais qui avait fait des choses. Moi, quand il m'a demandé si je voulais bien fonder En Marche avec lui, j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que je ne voyais pas très bien ce que je pouvais apporter. Et d'une certaine manière, je crois que c'était vraiment une clé pour lui, c'était d'avoir des gens qui avaient tenté des choses.
Des gens qui avaient tenté des choses. Il dit ça doit partir du bas. Et en même temps, il crée un mouvement qui s'appelle En Marche, EM. C'est aussi les initiales d'Emmanuel Macron.
Oui, mais enfin, il est clair qu'il nous a fédérés d'une certaine manière. Il a pris des sensibilités qui avaient des envies d'action et qui avaient suffisamment, je crois, de connaissances des fonctionnements, justement, de l'État, de l'entreprise. Enfin, cette variété, cette fertilisation croisée qu'il y a eu entre nous tous, elle est aussi une des explications de la réussite d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron est en lui-même aussi l'explication de notre envie d'y aller, parce que c'était un homme politique. Moi, je dis souvent, il a une musculature intellectuelle qui est formidable. Bon, il a beaucoup travaillé. Tout ce qu'on dit sur sa capacité de travail est une réalité. Sur cette capacité à la fois de penser le temps long et de nous dire il faut agir vite, ça répondait à notre vécu.
Hein, tout ce que vous nous dites, tout ce que vous nous décrivez, finalement crée une personnalité, un groupe politique plein de capacités, plein d'expérience, qui veut mettre la France en mouvement. Mais ça ne dit rien d'idéologique. Est-ce que c'est pas la définition de la technocratie ?
Non, j'arrive pas pour ma part à. Pour moi, la technocratie, c'est dans les registres. On peut dire qu'il peut y avoir trois registres dans la perception qu'on a de la mise en mouvement. Il y a un registre, la vision, le sens. Il y a un registre qui est les moyens de le faire. Là, on est dans la technocratie. Et puis, il y a un registre qui est on s'adapte au quotidien, on est proche des gens, on essaye de sentir ce qui se passe, etc. Et ça, c'est, je dirais, l'exercice du pouvoir quand on l'a, mais à l'époque on ne l'avait pas. Mais l'idée que le progressisme ne peut pas se satisfaire des catéchismes, des liturgies, des litanies qui étaient devenues les partis politiques de gauche que je connais mieux, mais aussi de droite.
Progressisme, justement, vous parlez de progressisme. J'ai demandé à Thierry Pech, directeur général du think tank Terra Nova, qui a aussi participé à sa façon à l'avènement du macronisme, de nous expliquer d'où vient ce progressisme macronien.
Alors, ça naît de plusieurs choses, je pense. Ça naît d'abord d'une idée de l'équité, lentement théorisée en France et qui a tardé à se frayer un chemin vers les réformes. Par exemple, l'idée que les inégalités contre lesquelles il faut lutter ne sont pas celles dont on parle tout le temps, qui sont réelles, bien sûr, les inégalités de revenus, par exemple, ou les inégalités de qualification, mais d'abord les inégalités de destin, celles qui font que le sort de quelqu'un est scellé à 17 ans ou qu'au contraire, il est ouvert. Bon. Or, on ne lutte pas contre les inégalités de destin comme on lutte contre les autres inégalités. Il ne s'agit pas de distribuer des prestations supplémentaires, il s'agit de distribuer des chances. Je crois que fondamentalement, ce qui identifie le macronisme, c'est son raccordement à cette idée de l'égalité des possibles, on pourrait dire, beaucoup plus que de l'égalité des revenus ou des l'égalité en capital, qu'il soit culturel, économique, etc.
Alors c'est un vieux débat ça, l'équité ou l'égalité. Là, il s'agit plutôt d'équité, pas d'égalité. Ou alors,
d'égalité des possibles. On a vu tout à l'heure le primat de la liberté, maintenant l'abandon de l'égalité des revenus, l'égalité, on reste uniquement sur l'égalité des chances. On se contente de ça?
Mais ça, c'est beaucoup plus ambitieux peut-être que le faux égalitarisme qui fait que, voilà, enfin, qui amène un certain nombre de personnes à dire on va essayer de niveler plutôt parce que comme ça on n'accepte pas d'une certaine manière un individualisme qui existe dans la société. Moi la phrase, le mot que j'aimais beaucoup entendre chez Macron, c'était l'assignation à résidence, quoi. Enfin voilà, il y avait ce côté,
ça, c'est pour les banlieues.
Oui, on lutte contre, oui, mais c'est pas que pour les banlieues, c'est aussi pour l'origine sociale, c'est aussi pour l'origine familiale. Enfin voilà, l'idée que il faut redonner des chances et que pour ça d'une certaine manière, il faut peut-être accepter de rompre avec le statut, avec tout ce qui, d'une certaine manière, égalise les choses, en faisant un peu plus respirer les choses et en compensant finalement les déficits. On est quand même dans l'idée que la compensation est quand même quelque chose qui permet d'aider les gens à grandir en partant de la réalité de leur taille, plutôt que de dire ça sera pour tout le monde pareil. Non, certains ont besoin d'avoir une estrade un peu plus haute, un accompagnement un peu plus fort.
Non, stop. Dis donc, Thomas, la côté social, égalité, etc., c'est pas un peu angélique ce qu'elle explique Barbaroux sur Macron?
Bah, c'était comme ça en 2017, hein, il y a pas longtemps, mais on s'en souvient plus. Mais à l'époque, il y avait un macronisme de gauche et de droite. Il était et l'un et l'autre. C'était l'époque de la campagne aussi. C'est pas mal de se replonger à cette époque, on voit la différence. Bon, maintenant, on est plutôt dans un macronisme de droite. Peut-être que le macronisme de gauche arrivera, mais pour l'instant, c'est de droite.
Au fond, le modèle social français ne tient plus debout. Il tient plus debout parce que les protections qu'il accorde aux individus sont attachées à des statuts. Or, ces statuts sont de moins en moins solides ou de plus en plus inégalement distribués dans la population. Et donc, il faut protéger les gens autrement. Et le macronisme s'est présenté comme la chance historique de passer aux actes, d'une certaine façon, sur ce sujet. C'est-à-dire de créer des protections attachées aux personnes. Et c'est ça qu'il propose aux Français. Par exemple, l'assurance chômage universelle. Vous n'êtes pas plus ou moins assuré selon que vous êtes salarié ou indépendant ou que... Bon. Non, vous allez avoir une assurance attachée à votre personne. On va tendre en tout cas vers cet idéal. Donc toutes ces idées tendent vers un modèle social différent, qui est assez scandinave d'ailleurs, hein, quand on le regarde de ce point de vue-là. Ce sont des idées qui ne sont pas neuves en 2017. Ce qui est nouveau, c'est que peut-être on va le faire.
Est-ce que ce n'est pas un nouvel individualisme finalement ?
Oui, alors je suis pas, enfin j'entends hein, tout ce que dit Thierry Pêche et je suis d'accord sur le fait qu'en tout cas on pensait que le modèle social tel qui n'était plus un modèle, enfin je veux dire on s'y réfère un peu parce que 45, le CNR,
voilà,
enfin,
le Conseil national de la résistance,
tout ce et ça a effectivement fonctionné.
La République sociale. Mais quand même.
Sauf qu'on voit bien que depuis 10-20 ans, le chômage de masse, les inégalités criantes dans la reproduction, enfin tous les diagnostics montrent que c'est la référence, mais ça n'est plus du tout un modèle efficace.
Bon, alors là, maintenant, on met le reportage sur Rosès.
Ok. Et on enchaîne avec l'extrême droite et le souvenir de 2002, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et on continue avec Macron.
Ouais, et puis à nouveau, Stéphane Rosès. Tu vas adorer. Pour une grande politologue comme toi, c'est parfait.
Emmanuel Macron arrive en disant « Non, non, mais c'est pas vous les responsables de notre malheur. C'est pas vous les responsables de la dépression française. Vous, vous êtes merveilleux, vous avez plein de talents, on va se mettre en marche. Le problème, c'est le système politique, avec ses anciennes façons de faire. De sorte que, il propose un nouveau chemin au pays, qui est ni de plier devant la mondialisation, qui était le propos de François Fillon, quitte à garantir ensuite moralement les Français sur des valeurs conservatrices, ni résister à la mondialisation de façon différente. Marine Le Pen avec la préférence française pour faire vite, et Jean-Luc Mélenchon en cours de campagne avec un retour à des traditions jaurésiennes pour faire vite. Eh bien, lui est le seul à dire au pays, non, 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 on va pouvoir survivre sans renoncer à ce qu'on sait. Le problème, c'est les gens d'en haut, je sais, j'en viens. Et comme lui-même est jeune, tout d'un coup, le pays se dit, tiens, on a peut-être encore un destin dans le monde tel qu'il est. On n'est peut-être pas amené à disparaître.
Nous allons réconcilier notre pays avec le goût du risque, avec la volonté d'entreprendre, avec la volonté de créer à tout niveau. Nous sommes l'audace, l'audace qui veut réconcilier pour porter cet optimisme volontaire qui est le nôtre et pour changer à jamais le visage de la France.
Voilà Emmanuel Macron en meeting pendant la campagne. L'audace, l'optimisme volontaire, c'est du bonapartisme. Hein. Écoutez d'ailleurs ce qu'en dit Stéphane Rosès.
On pourrait dire le programme de Macron, c'était Macron. C'était son incarnation. Une posture générale ancienne, qui est un peu celle du Bonaparte, qui vient de ce que, quand la France ne peut plus se déployer dans l'espace et le temps, ce qui était le cas, alors on va chercher une incarnation qui tient ensemble le pays, qui met de côté le clivage gauche-droite de nature sociale pour avoir une figure de ce qui tient ensemble dans le retour, au fond, de la France en elle-même et dans le monde.
Donc si je te cite, En Marche, au fond, c'est un moyen de locomotion, mais c'est pas une destination.
Eh ben c'est pas mal comme résumé, hein, et évidemment c'est de moi. Donc maintenant, on va directement au générique.
Et pourquoi on n'enchaîne pas avec le suivant directement? Tu salues Catherine Barbaroux et t'enchaînes avec Michel Cotta pour l'épisode 9, l'incarnation. C'est toujours Macron, mais c'est plus dynamique.
Bah non, on respecte le plan.
Je souhaite conformiste,
dans 15 jours de bah devenir ouais, votre président.
Le moment est venu.
Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire.
J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années.
Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National.
Après tout, personne n'est obligé.
66% contre 34 pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire.
En mars, c'est nous.